Chapitre 66. Callan sortit sa carte et y jeta un rapide coup d'œil. Se repérer n'était pas facile, mais les autres bâtiments de la rue semblaient beaucoup moins bien entretenus que celui-là.
« Qu'en pensez-vous ? »
demanda Kara. L'inquisitrice remit la carte sous son manteau, dont elle ajusta le col pour qu'il dissimule la garde de l'épée de Richard, toujours accrochée dans son dos. Sa propre lame sur son flanc était également cachée par le vêtement.
« Je ne sais pas trop. Avec la tombée de la nuit, c'est difficile à dire. Pour être sûr, il faudra entrer. »
Kara regarda autour d'elle et constata que personne ne leur accordait d'attention. Dans cette ville, les gens semblaient ne pas se soucier des autres, peut-être parce que c'était le meilleur moyen d'éviter les ennuis. Leurs chevaux étant dans une écurie hors de la cité, les deux femmes ne pourraient pas fuir rapidement si quelque chose tournait mal, mais l'indifférence des passants de ce point de vue-là était très rassurante. Kara et Callan avaient décidé d'être le plus naturel possible, histoire de ne pas se faire remarquer. L'inquisitrice avait pensé que leurs vêtements de voyage seraient parfaits pour passer inaperçus. Mais dans une ville miteuse comme Alterrang, leur tenue jurait atrocement et elles devaient être aussi discrètes que deux courtisanes peinturlurées et égarées dans une kermesse de village. Si elles restaient longtemps, il leur faudrait trouver des habits vraiment atroces. Callan gravit les marches du porche, poussa la porte par bonheur ouverte, avança dans le couloir, récemment lavé, il embaumait la citronnelle, et marcha jusqu'à la première porte sur la droite. Si les informations supplémentaires que Kara avait arrachées à Gadi étaient justes, et s'il s'agissait du bon bâtiment, Richard devait habiter là. Après avoir regardé à droite et à gauche, pour s'assurer que personne ne venait, Callan frappa doucement au battant. N'obtenant pas de réponse, elle frappa un peu plus fort. Puis, elle essaya la poignée et constata qu'elle était bloquée. Tirant un couteau de sous son manteau, elle s'attaqua à la serrure et en vint rapidement à bout. Sans hésiter, elle ouvrit la porte, prit Kara par la manche et l'entraîna dans la petite chambre. Prête à tout, y compris à se battre, les deux femmes se détendirent en constatant qu'il n'y avait personne dans la pièce. À la lumière qui filtrait des deux fenêtres, Callan vit d'abord les deux lits installés dans un coin à bonne distance l'un de l'autre, puis elle aperçut le sac de voyage de Richard. S'agenouillant, elle l'ouvrit et y trouva bien les affaires qu'avait emportées son mari. Au bord des larmes, elle serra le sac contre sa poitrine. Richard avait été contraint de la quitter plus d'un an auparavant. Depuis qu'ils se connaissaient, ils avaient été beaucoup plus souvent séparés qu'ensemble et cela ne pouvait plus durer ainsi. Entendant du bruit dans son dos, l'inquisitrice se retourna à temps pour voir Kara saisir au vol le poignet d'un jeune homme qui venait de faire irruption dans la chambre. Sans effort apparent, la mort de Sith immobilisa le garçon, lui retourna le bras dans le dos et leva son agiel.
« Kara, non !»
cria Callan. Déçu, Kara s'abstint d'abattre son arme sur la trachée artère de l'intrus qui écarquillait les yeux de peur et d'indignation.
« Voleuse, voleuse, laissez ce sac, il n'est pas à vous !»
Callan approcha du garçon et lui fit signe de ne plus crier.
« Tu es Camille ou Nabi ?»« Camille ? Et vous qui êtes-vous ? D'abord, comment connaissez-vous mon nom ?»« Je suis une amie. Gadi m'a dit que... »« Gadi, vous n'êtes pas une amie. Je... »
Pour l'empêcher d'appeler à l'aide, Kara plaqua une main sur la bouche de Camille.
« Camille, Gadi a tué un de nos amis. Nous l'avons capturé et interrogé. C'est là qu'il nous a dit ton nom. »
Voyant que l'adolescent était soufflé par cette nouvelle, Callan fit signe à Kara de baisser sa main.
« Gadi a assassiné quelqu'un ?»
souffla Camille.
« Oui, »
grogna Kara.
« Et qu'avez-vous fait pour le punir ?»« Il a été exécuté, »
répondit Callan sans s'étendre sur les détails.
« Alors vous êtes vraiment une amie. Gadi était un sale type, j'espère qu'il n'est pas mort paisiblement. »«
Il a agonisé pendant longtemps, »
dit Kara. D'un geste, Callan lui ordonna de lâcher Camille.
« Alors, qui êtes-vous ? Je m'appelle Callan et voici Kara. Et que faites-vous ici ? Tout expliquer prendrait trop de temps, mais nous cherchons Richard. »« Sans blague ?»
demanda Camille de nouveau soupçonneux. Callan eut un petit sourire. Ce garçon était vraiment un ami fidèle de Richard.
« Je suis sa femme, »
dit-elle en posant une main sur l'épaule de l'adolescent.
« La vraie ?»« Mais... »
Nietzsche n'a jamais été marié avec lui.
Des larmes perlant à ses paupières, Camille eut un soupir de soulagement.
« Je le savais. J'étais sûr qu'il ne l'aimait pas, et je me suis toujours demandé pourquoi il l'avait épousée. »
Cédant à une impulsion, Camille enlaça la jeune femme et la serra contre lui. Très émue et un peu gênée, l'inquisitrice lui ébouriffa les cheveux en souriant. Cara finit par prendre Camille par le col pour le tirer en arrière, mais avec une relative délicatesse cette fois.
« Et vous, qui êtes-vous ? »
lui demanda-t-il.
« Une morde.
Cara est la meilleure amie de Richard, » coupa Callan. Sans mesurer l'incongruité de son geste, Camille étreignait également la mordecite. Un instant, Callan redouta que ça finisse mal pour le garçon. Mais Cara supporta poliment cette manifestation de tendresse. À un moment, l'inquisitrice crut même la voir sourire. Quand il eut lâché sa proie, Camille se tourna vers Callan.
« Mais que fait Richard avec Nietzsche dans ce cas ?»«
C'est une très longue histoire.
Eh bien, racontez-la-moi. »
L'inquisitrice sonda les yeux noirs de Camille et aima ce qu'elle y lut. Cependant, elle jugea préférable de lui livrer une version simplifiée des faits.
« Nietzsche est une magicienne. Elle a utilisé son pouvoir pour obliger Richard à la suivre. »«
Quel pouvoir ?»
demanda Camille.
« Si Richard ne lui avait pas obéi, elle aurait pu me faire souffrir, voire me tuer, et tout ça à distance. »
Camille réfléchit quelques instants.
« Je comprends, oui. Pour sauver la femme qu'il aime, Richard ne reculerait devant rien. Et j'ai toujours su qu'il n'aimait pas Nietzsche. »«
Et comment le savais-tu ? » ?»«
Vous avez vu les deux lits ? Il ne dort pas avec elle. Quand vous étiez ensemble, je suis sûr qu'il partageait votre lit. »
Callan sentit qu'elle rosissait.
« Comment peux-tu affirmer ça ? » ?»«
Eh bien... »
Camille se gratta la tête.
« On a l'impression que vous êtes faits l'un pour l'autre. Quand vous prononcez son prénom, je sens à quel point vous aimez Richard. »
Bien qu'elle fût épuisée, Callan ne put s'empêcher de sourire. Pour arriver plus vite, les deux femmes ne s'étaient pas ménagées. En chemin, elles avaient perdu quelques chevaux et dû en acheter d'autres. Dormant très peu, surtout la dernière semaine, elles étaient à bout de force.
« Camille, tu sais où est Richard ? » ?»«
Au travail, sûrement. En général, il rentre autour de 7 heures de la journée, sauf quand il double son poste. »
« Et Nietzsche, où est-elle ? » ?»«
Je n'en sais rien. Elle est peut-être allée acheter du pain. Mais c'est bizarre, quand même. En général, elle revient plus tôt que ça pour préparer le repas de Richard. »
Callan fit le tour de la pièce du regard. Devait-elle s'en aller au risque de rater Richard à quelques minutes près ? Selon Camille, l'absence de Nietzsche n'était pas normale. Quelque chose clochait.
« Où travaille Richard ? » ?»«
Sur le chantier. » »«
Quel chantier ? » ?»«
Le palais de l'empereur. Demain, il y aura une grande inauguration. » »«
La construction est terminée ? » ?»«
Non, il y en a encore pour des années, mais les frères veulent consacrer l'édifice au Créateur, et beaucoup de gens sont venus à Alter Rang pour assister à la cérémonie. » »«
Richard aide à bâtir le palais de l'empereur ? » ?»«
Il est sculpteur. » Enfin, maintenant. Au début, il travaillait pour Ishak, le transporteur, mais quand il a été arrêté...
Ils l'ont mis en prison ?
Callan saisit Camille par les pans de sa chemise.
A-t-il été torturé ?
J'ai donné tout mon argent à Nietzsche pour qu'elle puisse le voir. Avec l'aide d'Ishak et de Victor, le forgeron, elle a tiré Richard de ce mauvais pas. Il était dans un sale état, mais il s'est vite remis. Après, les autorités l'ont forcé à travailler comme sculpteur.
Submergé d'informations, Callan en eut le tournis. Mais une nouvelle parvenait quand même à surnager. Si Richard avait souffert, il s'était rétabli.
Il travaille sur des statues ?
Pour décorer les murs du palais, oui. Il m'aide à me lancer dans le métier. Si vous voulez, je vous montrerai mes œuvres.
Richard sculptait. En soi, c'était une bonne chose. Hélas, toutes les statues que Callan et Cara avaient vues dans l'ancien monde étaient laides à vomir. S'il devait créer des horreurs pareilles, Richard n'était sûrement pas heureux, mais il n'avait pas eu le choix.
« Je les verrai avec plaisir, » répondit Callan à Camille, « mais plus tard. »
Elle se massa le front pour s'aider à réfléchir.
« Peux-tu me conduire sur le chantier ?»«
Bien sûr, mais ne feriez-vous pas mieux d'attendre ici ? Richard sera peut-être bientôt là. »
« Tu m'as dit qu'il travaillait parfois la nuit ?»
Ces derniers mois, c'était presque tous les soirs. Il avait une commande spéciale pour l'inauguration. Demain, je pourrai enfin voir sa statue. La cérémonie étant proche, il doit avoir terminé. Je n'ai jamais su où il sculptait la nuit, Mais son ami Victor le forgeron pourra sans doute nous le dire. Dans ce cas, allons voir Victor.
L'ennui, dit Camille, c'est qu'il ne sera pas dans son atelier et j'ignore où il habite.
Il y a beaucoup de monde dehors la nuit.
Ce soir sûrement parce que les gens viennent voir l'esplanade avant l'inauguration de demain.
La présence d'une foule serait un avantage. Si des gens grouillaient partout, Callan et Cara n'attireraient pas l'attention tandis qu'elles chercheraient Richard.
Nous allons attendre une heure,
trancha l'inquisitrice.
S'il n'est pas de retour d'ici là, nous tenterons de trouver Richard à son travail.
Et si Nietzsche revient?
Demanda Cara.
Je vais monter la garde dehors,
dit Camille.
Attendez ici où vous serez en sécurité. Si elle se montre, je viendrai vous prévenir et ça vous laissera le temps de sortir par l'arrière du bâtiment.
Un bon plan, Camille,
dit Callan en tapotant l'épaule de l'adolescent.
Vous devriez dormir un peu,
souffla Cara dès que le jeune homme fut sorti.
Je resterai éveillé. La dernière fois, c'est moi qui me suis reposé.
Épuisée, Callan baissa les yeux sur le lit le plus proche des affaires de Richard, puis elle s'y étendit, heureuse d'être si proche de son bien-aimé après une si longue séparation. Bien entendu, elle ne parvint pas à fermer l'œil.
Nietzsche eut le cœur serré quand elle constata que Richard n'était pas rentré. Camille aussi restait introuvable.
Sur l'esplanade, Nietzsche avait vécu un vrai moment de bonheur en voyant tant de gens accourir pour découvrir la statue. Presque tous s'étaient réjouis devant tant de beauté. Quelques-uns, cependant, avaient semblé bouleversés par ce spectacle. Au fond, la sœur de l'obscurité pouvait les comprendre. En revanche, elle avait eu du mal à saisir pourquoi la beauté éveillait tant de haine chez quelques personnes. Puis elle s'était souvenue de sa propre existence. Certains individus détestaient la vie et tout ce qui la glorifiait les blessait. Mais la majorité des gens avaient réagi comme elle devant l'œuvre de Richard. Désormais, tout était clair dans l'esprit de Nietzsche. Pour la première fois depuis sa naissance, la vie avait un sens pour elle. Richard avait tenté de le lui faire découvrir, mais elle s'était acharnée à ne pas l'écouter. Ce n'était pas la première fois que quelqu'un lui disait la vérité. Mais les cris de ses maîtres, sa mère, le frère Narev, l'ordre impérial, l'avaient empêché d'entendre. Programmée par son éducation, dès qu'elle avait rencontré Narev, Nietzsche était devenu un petit soldat de l'ordre. En voyant la statue, elle avait enfin accepté la vérité qu'elle s'ingéniait à fuir depuis près de 2 siècles. La vie était vraiment comme Richard la représentait, et elle avait passé toute son existence à nier une évidence qui aurait pourtant dû lui crever les yeux. À présent, elle comprenait pourquoi l'existence lui avait toujours paru vide et dépourvue de sens. C'était elle qui l'avait rendue ainsi en refusant de recourir à son intelligence. Esclave des nécessiteux de tout poil, elle avait donné à ses maîtres la seule arme qu'il leur fallait pour la dominer, la culpabilité. Un collier qu'elle avait placé elle-même autour de son cou, se livrant aux désirs et aux besoins des autres au lieu de mener sa vie comme elle l'aurait dû, à savoir en pensant d'abord à elle. Trop bien conditionnée, elle n'avait jamais demandé au nom de quoi il était juste qu'elle se sacrifie pour les autres, et pas immoral du tout qu'il profite impudemment d'elle. En se laissant enrôler dans cette folie, elle n'avait pas contribué à l'amélioration du sort de l'humanité, mais simplement exécuté les volontés d'une horde de petits tyrans. Le mal n'était pas une entité énorme et puissante, mais la somme de toutes les minuscules injustices qu'on ne redressait pas et qui finissaient par devenir des monstres. Depuis toujours, Nietzsche avançait sur des sables mouvants qui la contraignaient à négliger la raison et l'intelligence. Dans ce marécage, seule la foi avait quelque valeur, et la foi aveugle primait surtout. En ne se rebiffant pas, elle avait entériné cette sinistre philosophie fondée sur la conformité et le vide. Au nom du bien, elle avait forcé des centaines d'individus à se passer autour du cou le même collier que celui qui l'empêchait de respirer. La statue de Richard, avec les quelques mots gravés derrière le cadran solaire, était une réponse définitive à un torrent de mensonges. Désormais, Nietzsche savait que sa vie lui appartenait, à elle et à personne d'autre. La liberté existait d'abord, et avant tout dans l'esprit des êtres pensants et rationnels. C'était le message profond de la statue, et en la sculptant, Richard avait directement démontré sa véracité. Prisonnier d'une sœur de l'obscurité et de l'ordre impérial, il s'était élevé au-dessus de sa condition grâce à la force de son esprit. Sur l'esplanade, Nietzsche avait compris que son père incarnait et défendait les mêmes valeurs, même s'il aurait été incapable de le formuler clairement. C'était cela qu'elle voyait briller dans ses yeux, et au fond elle savait depuis toujours de quoi il s'agissait. N'étant pas un homme de discours, Howard avait exprimé sa philosophie à travers sa façon de travailler. Enfant, Nietzsche aurait voulu devenir armurier comme lui, et il y avait une raison profonde à cela. Elle désirait adopter la vision du monde de son père, puis la perpétuer. Mais sa mère et ses amis avaient étouffé ce désir en elle jusqu'à ce qu'elle l'oublie. Le premier jour au palais des prophètes, elle avait reconnu, sans le savoir, l'amour de la vie qui avait toujours animé son père. Nietzsche avait pris conscience d'autre chose. Si elle portait du noir depuis la mort de sa mère, c'était symboliquement parce qu'elle aurait voulu enterrer avec elle ses idéaux pervertis. Si Richard avait été là, elle aurait eu la joie de lui dire qu'il lui avait fourni la réponse qu'elle cherchait. Quant à lui demander pardon, c'était impossible, parce qu'elle lui avait fait trop de mal. À présent, elle devrait réparer puis accepter de traîner ses remords jusqu'à la fin de sa vie. Dès qu'elle l'aurait retrouvé, il partirait pour le Nouveau Monde. Dès qu'ils auraient localisé Callan, Nietzsche remettrait les choses dans l'ordre. Pour neutraliser le sort de maternité, elle devrait être à proximité de l'inquisitrice, au minimum à portée de vue. Ensuite, Callan serait libre, et Richard aussi. Même si elle aimait cet homme, Nietzsche comprenait maintenant qu'il devait être avec la femme qu'il s'était choisie. Sa passion pour lui ne lui donnait aucun droit d'intervenir dans sa vie. Personne ne lui appartenait. Inversement, elle n'appartenait à personne. S'étendant sur son lit, Nietzsche pleura en pensant au mal qu'elle avait fait à Richard et à Callan. Comment avait-elle pu être aveugle si longtemps? La honte la submergeait. Pourquoi avait-elle gaspillé sa vie à lutter au nom du mal simplement parce qu'il se parait des atours de la vertu? Elle avait été une sœur de l'obscurité convaincue. Heureusement, il lui restait encore la possibilité de réparer ses fautes. Quand elle vit la foule qui se pressait sur l'esplanade, maintenant éclairée par des torches, Callan eut du mal à en croire ses yeux. Il devait y avoir des dizaines de milliers de personnes, peut-être des centaines. Camille aussi était stupéfait.
« Je n'ai jamais vu autant de gens dehors au milieu de la nuit !»
s'exclama-t-il.
« Que font-ils donc ?»«
Comment veux-tu que nous le sachions ?»
marmonna Cara, très mécontente que le seigneur Hall soit toujours introuvable. Toute la ville grouillait de gens et les gardes patrouillaient sans cesse, énervés par cette étrange activité nocturne. Jugeant que la prudence s'imposait, Camille avait préféré rejoindre le chantier par des chemins détournés, et il leur avait fallu plus d'une heure pour y arriver.
« C'est là, sur le flanc de cette colline !»
dit l'adolescent. Ils s'engagèrent sur une piste qui serpentait entre des ateliers pour la plupart déserts. Dans un tout petit nombre, des hommes travaillaient encore, penchés sur un établi chichement éclairé par des bougies ou des lampes. Voyant un homme courir vers elle, Callan glissa la main sous son manteau et la posa sur la garde de son épée.
« Vous avez vu ?»
lança le type en s'arrêtant net.
« Vu quoi ?»
demanda Callan.
« Sur l'esplanade, vous devez y aller !»
L'homme repartit au pas de course.
« Je file chercher ma femme et mes fils, il faut qu'ils voient ça !»
Cara et Callan échangèrent un regard perplexe.
« Victor n'est pas là !»
annonça Camille en revenant vers les deux femmes.
« J'ai frappé à la porte de son atelier, mais il est trop tard !»
« Sais-tu ce qui se passe sur l'esplanade ?»
demanda Callan.
« L'esplanade, c'est là que Richard m'a dit de venir demain, mais... Eh bien, à vrai dire, j'ignore ce qui se passe.
« Allons y jeter un coup d'œil, » dit Callan.
« Suivez-moi, je connais un raccourci, »
lança Camille. Avec la foule qui se pressait partout, il leur fallut une bonne heure pour atteindre le pied de la colline puis la lisière de l'esplanade. Bien qu'il fût très tard, des milliers de citadins continuaient à affluer. Callan comprit très vite qu'il ne parviendrait pas à atteindre l'esplanade. L'entrée était prise d'assaut et la queue menaçait de durer des heures. Quand Camille et les deux femmes tentèrent de remonter la file pour voir au moins ce qui se passait, cela faillit déclencher une émeute. Les gens attendaient depuis des heures et ils ne toléraient pas les resquilleurs. Cara sortit la main dessous son manteau et fit ostensiblement osciller la gielle accrochée à son poignet. L'inquisitrice secoua la tête.
« Je veux bien affronter l'armée de Jagang en étant en infériorité numérique, » dit-elle. « Mais 300 ou 200 000, voilà qui me paraît un peu beaucoup. »«
Vraiment ?»
demanda Cara.
« Moi, ça me semble une très bonne cote. »
Callan sourit de cette plaisanterie. Si téméraire qu'elle fût, la mort de Sid ne se serait pas risquée à charger une foule. Camille, en revanche, parut désorientée par l'humour de Cara, ou peu sûre que ça en soit. Résignées, les deux femmes et l'ami de Richard battirent en retraite et allèrent se placer au bout de la file. En quelques minutes, il y eut presque autant de gens derrière eux que devant. Tous étaient excités, mais pas d'humeur violente, bien au contraire. Une femme rondelette, pauvrement vêtue, se retourna et leur sourit, puis elle tendit vers eux une miche de pain.
« Vous en voulez un peu ? »
demanda-t-elle.
« Non, merci, » répondit Callan. « Mais c'est très gentil à vous de le proposer. »«
C'est la première fois de ma vie que je fais ça. »
La femme eut un petit rire.
« Ce soir, ça semble approprié, n'est-ce pas ?»
Callan n'avait pas la moindre idée de ce que voulait dire son interlocutrice, mais elle ne vit aucune raison de la contrarier.
« Oui, on peut voir les choses comme ça. »
La queue s'éternisa. Le dos douloureux, à force de rester debout, Callan crut même voir Cara grimacer en sautillant sur place.
« Je crois que nous devrions dégainer nos armes et nous frayer un passage par la force, »
marmonna-t-elle à bout de patience.
« Pourquoi t'énerver ? »
demanda Callan.
« Jusqu'à demain matin, nous n'avons rien d'autre à faire. Après le lever du soleil, nous irons voir le forgeron, et s'il ne sait pas où est Richard, nous le chercherons sur le chantier. »
« Il est peut-être rentré chez lui.
Tu voudrais que nous nous retrouvions face à Nietzsche ? Tu sais de quoi elle est capable. Cette fois, nous risquerions de ne pas nous en sortir. Cara, nous n'avons pas fait tout ce chemin pour l'affronter, mais pour voir Richard. S'il passe par sa chambre, ce qui n'est pas sûr, il devra revenir ici demain matin de toute façon. »«
Oui, ce n'est pas trop mal raisonné. »
Le ciel se colorait de rouge quand l'inquisitrice et ses deux compagnons atteignirent le pied des marches de marbre. Des gémissements et des murmures extatiques retentissaient sur l'esplanade. Bien qu'elle ne pût pas voir pourquoi, Callan comprit que les gens là-haut pleuraient sans retenue. Bizarrement, quelques-uns riaient de joie et d'autres éructaient des jurons, comme si un bandit armé d'un couteau venait de les délester de leurs économies. Pendant qu'elle montait les marches, Cara et Callan tentèrent de se faire toute petite pour ne pas attirer l'attention. Des centaines de torches brillaient sur l'esplanade et l'odeur âcre de leur fumée se mêlait à celle de la transpiration. À travers une brèche fugitive dans la muraille humaine qui la précédait, Callan crut apercevoir quelque chose qui la fit sursauter. Hélas, la brèche se referma aussitôt, mais devant elle, les personnes qui voyaient l'esplanade s'étaient également mises à pleurer. Callan entendit des voix d'hommes demander fermement mais poliment à la foule d'avancer pour laisser une chance à tout le monde d'atteindre l'esplanade. Le soleil se leva, occultant la lumière des torches. Quand il fut assez haut dans le ciel, la lumière inonda les murs du palais. Les statues qui les décoraient ressemblaient à toutes celles que Callan avait vues dans l'Ancien Monde, en plus horribles, si c'était possible. Callan repensa aux formes délicates de bravoure. L'idée que Richard ait dû sculpter de telles abominations lui retournait l'estomac. L'ordre impérial marchait sous la bannière de la douleur, du désespoir et de la mort. Quand il aurait gagné la guerre, c'était ce qu'il gardait en réserve pour le Nouveau Monde. Sur les murs du palais, Callan pouvait contempler le destin qui guettait les peuples des contrées du milieu. Soudain, les gens qui la précédaient s'écartèrent, et elle vit enfin la raison de l'agitation nocturne. Une fabuleuse statue de marbre qui reflétait glorieusement la lumière. Le souffle coupé, Cara prit le bras de son ami et le serra très fort. L'homme et la femme ciselés dans la pierre étaient magnifiques, mais c'était surtout leur évidente noblesse d'esprit qui frappait l'imagination. Callan sentit des larmes rouler sur ses joues. Comme tout le monde, elle pleurait devant cette œuvre entièrement dédiée à la vie et à l'espoir. Curieusement, les abominations qui servaient de toile de fond à cette merveille en perdaient toute leur puissance d'évocation. La vie. Lut l'inquisitrice sur le socle de la statue. Prenant le bras de Cara qui tenait toujours le sien, elle s'y accrocha comme à une bouée de sauvetage, car ses jambes menaçaient de se dérober. Le personnage masculin de la statue n'était pas Richard, mais il lui ressemblait beaucoup. Pareillement, si la femme n'était pas Callan, elle avait assez de points communs pour que l'épouse du sorcier rougisse à l'idée d'être ainsi exposée aux yeux de tous.
« S'il vous plaît, »
dit une voix masculine,
« avancez pour que les autres puissent voir. »
Les hommes qui se chargeaient de canaliser la foule n'étaient pas des gardes, mais de simples citoyens aussi humbles et démunis que les autres. La femme à la miche de pain s'était laissée tomber à genoux. Respectueux de ses larmes, deux braves types vinrent la relever délicatement et la firent avancer pour qu'elle ne provoque pas une bousculade. De sa vie, la pauvre citoyenne de l'ancien monde n'avait jamais dû voir une telle beauté. Quand Callan passa à côté de la statue, elle tendit une main pour l'effleurer comme tout le monde. Sentant sous ses doigts le marbre que Richard avait amoureusement travaillé, elle sanglota de plus belle. Puis elle vit que quelques mots étaient gravés sur la face arrière du cadran solaire. « Votre vie n'appartient qu'à vous. Relevez la tête et vivez-la pleinement. » Beaucoup de gens sur l'esplanade répétaient inlassablement ces deux phrases. La foule qui continuait d'arriver forçait ceux qui avaient vu la statue à s'en éloigner. D'autres hommes, tout aussi bénévoles que les précédents, dirigeaient les visiteurs vers l'arrière du palais à demi construit, d'où il était possible de quitter l'esplanade.
« J'aimerais que Benjamin voie ça, » souffla Kara.
« Et moi, » dit Callan, « j'allais murmurer, il faudrait que Richard voie ça. »
Les deux femmes échangèrent un sourire complice. Camille prit la main de Callan et il vit que la vraie femme de Richard tenait celle de son ami.
« Et c'est lui qui l'a sculpté !»
lança-t-il triomphalement.
« Où pourrons-nous le trouver d'après toi ? Nous devrions retourner chez le forgeron. Si Richard n'y est pas, Victor pourra peut-être nous aider à le dénicher. »
Callan hocha la tête. Dans son esprit, quelques mots très simples résonnaient comme une délicieuse musique.
« Et c'est lui qui l'a sculpté. »